11h sur Radio Campus Tour, vous écoutez La Méridienne. Bienvenue si vous nous rejoignez. Mon invité aujourd'hui, Emmanuel Lallemand. Emmanuel Lallemand est anthropologue du monde urbain. Elle est professeure des universités à l'Institut d'études européennes de l'Université Paris 8. Elle est membre du laboratoire Architecture, Ville, Urbanisme, Environnement, le LAVU. Elle développe des recherches sur la fabrication de la ville par l'événementiel festif, les situations d'échange marchand et les mobilités dans le cadre de la globalisation. Elle est responsable de l'axe « Penser la ville contemporaine » de la Maison des sciences de l'Homme, Paris Nord. Les Tourangeaux ont pu l'écouter à l'occasion du TEDx Tour, l'un des derniers événements avant le second confinement. Elle est ici interviewée dans le cadre de la Nuit européenne des chercheurs.
Je travaille à l'Université Paris 8, dans un institut qui s'appelle l'Institut d'études européennes, voilà, qui forme des étudiants aux différents métiers liés à l'Europe. Et je m'occupe plus particulièrement d'un parcours dans cet institut d'études européennes qui s'appelle le parcours Villes européennes, urbanisme, aménagement et dynamique sociale. Donc on forme des étudiants plutôt dans une optique, on va dire, assez professionnelle à tous les métiers de la fabrication de la ville, fabrication concrète de la ville, avec effectivement le métier d'urbaniste, d'aménagement, mais aussi la fabrication, on pourrait dire, plus symbolique de la ville, c'est-à-dire tous ces métiers qui visent à voir comment la ville se fabrique avec différents acteurs que peuvent être les habitants avec leurs problématiques, les associations et les différentes institutions qui la font. Donc c'est vraiment ces deux versants en fait, de la fabrication de la ville, matériel et symbolique, à laquelle nous formons les étudiants. Et du coup, ils s'insèrent dans différents métiers, et surtout au niveau des collectivités, des bureaux d'études. Et puis on essaye aussi de leur montrer que cette ville, elle est à la fois une ville très, très locale, on est dans le territoire de la Seine-Saint-Denis, donc il y a énormément de problématiques urbaines en Seine-Saint-Denis, à la fois des problématiques sociales, mais aussi beaucoup de, on va dire, de dynamisme, beaucoup de projets. Il y a notamment évidemment les JO, mais pas seulement, toute cette question de l'intercommunalité, la métropolisation. Donc on forme les étudiants sur ce territoire de la Seine-Saint-Denis, mais aussi d'un point de vue européen, c'est-à-dire on le met en comparaison avec d'autres situations dans les grandes capitales européennes, dans les périphéries. On essaye de voir que cette fabrication de la ville, elle touche à la fois le local, mais aussi beaucoup la mondialisation, évidemment.
Alors, est-ce que ça existe une ville européenne ? Est-ce que ça a du sens de parler de ville européenne ?
Alors, on peut parler de ville européenne dans la mesure où, effectivement, il peut y avoir des programmes européens, notamment, on peut parler à des programmes sur, effectivement, comment répondre à des besoins urbains, comment répondre à des besoins socio-urbains. Et la question de la pandémie nous montre, effectivement, que l'Europe peut avoir une implication sur ce qui se joue en ville. Après, de parler de ville européenne, on est plutôt, effectivement, dans une idée de voir quelle est l'expérience des villes à l'échelle de l'Europe, quel est ce continuum urbain qui fait qu'on peut avoir des expériences à la fois singulières mais aussi un peu communes de ville en ville. Je pense par exemple au tourisme qui est une des thématiques sur lesquelles j'ai un peu travaillé ces dernières années, c'est-à-dire cette idée qu'effectivement il y aurait comme ça dans les grandes capitales européennes des points communs avec un tourisme urbain qui est plutôt un tourisme de 2-3 jours, une mobilité de certaines, on va dire, catégories de population plutôt jeunes, plutôt effectivement du point de vue des élites ou en tout cas des catégories sociales plutôt favorisées qui peuvent être dans cette mobilité. Mais aussi dans un autre point de vue, on peut voir avec tout ce qui a été fait sur l'accueil ou plutôt le non-accueil des migrants, en tout cas cette problématique qui ont connu plusieurs capitales européennes sur le fait de savoir accueillir ou ne pas savoir accueillir ces migrants, savoir gérer cette situation. Ce sont des choses sur lesquelles travaillent un certain nombre de chercheurs et ça me fait rebondir du coup sur la question de mon laboratoire de rattachement qui est donc le LAVU, le laboratoire architecture, ville, urbanisme et environnement. C'est un laboratoire qui à la fois, c'est multisite parce que c'est l'Université de Paris 8, l'Université de Nanterre aussi, et puis le ministère de la Culture avec des écoles d'architecture qui constituent donc ce laboratoire. Donc on est vraiment pluridisciplinaire, on va trouver des anthropologues, des sociologues, des géographes, des architectes, des urbanistes, des sémiologues aussi, qui travaillent sur cette question du phénomène urbain à une échelle, comme je le disais, à la fois locale mais aussi très transnationale.
D'ailleurs, cette identité européenne, quel sens on peut lui donner dans un endroit comme la Seine-Saint-Denis, où il y a quand même sûrement beaucoup de nationalités et de nationalités non européennes?
On est dans un territoire, la Seine-Saint-Denis, et on le voit à l'échelle de notre université Paris 8, qui est un territoire d'accueil de populations qui viennent effectivement, on pourrait dire, des quatre coins de la planète, même si effectivement on peut en faire une socio-histoire particulière pour dire que c'est plutôt telle nationalité plutôt que d'autres, en fonction des aléas de la post-colonisation et puis aussi des aléas et à la fois sociologiques, climatiques, et des conflits armés évidemment, qui affectent le monde entier. Donc oui, c'est peut-être pas une situation, on va dire, proprement européenne, plutôt cosmopolite, plutôt multiculturelle, mais on pourrait dire qu'en tout cas, c'est un territoire qui est très, on va dire, significatif des enjeux que traversent les villes, les enjeux urbains que traversent toutes les grandes villes d'Europe. À la fois, je le disais, ces tensions entre des élites mondialisées et peut-être cette problématique justement de l'afflux de populations plutôt, on va dire, défavorisées, qui viennent des Suds, comme on dit, et qui sont effectivement regroupées dans des territoires qui sont souvent effectivement un peu les mêmes, qui sont souvent ces territoires dans lesquels on va trouver déjà une sorte de paupérisation à l'œuvre, hein, mais aussi qui vont accueillir ces mêmes territoires on va dire en voie de paupérisation, ou en tout cas qui ont été considérés comme défavorisés, qui eux-mêmes accueillent plus peut-être que d'autres territoires ces populations venues d'ailleurs.
Alors, Emmanuel Lallemand, vous êtes anthropologue. Comment vous expliqueriez ce métier à des étudiants?
Alors, anthropologue, on peut avoir plusieurs, on va dire, définitions. Déjà, anthropologue, c'est le spécialiste de l'homme, le spécialiste de l'humain. On dit souvent aussi que c'est, on va dire, le spécialiste des cultures. Alors, c'est intéressant parce qu'anthropologue, ça dit qu'on est à la fois spécialiste donc de quelque chose qui est très particulier, singulier, qui sont les cultures, et donc on est dans l'analyse de la diversité, de ce qui fait la diversité de l'humanité, la diversité des sociétés humaines sur le plan culturel. Mais finalement, le métier d'anthropologue, c'est aussi beaucoup pour dire ce qui nous est commun malgré nos différences. C'est-à-dire qu'on est plutôt aussi dans l'idée d'essayer, par les comparaisons qu'on peut faire entre des différentes sociétés, de finalement dire qu'est-ce qui est commun, qu'est-ce qui est finalement, qui ne se joue pas de la même manière, qui va avoir une expression culturelle différente selon où l'on est dans le monde, de quelle société, à quelle société on appartient, mais aussi finalement ce qui nous est commun, ce que l'on fait finalement un peu pareil d'un point de vue formel. Alors, les anthropologues ont travaillé sur la manière de faire famille à travers le monde, en montrant qu'il y avait des manières de faire famille, des modalités de faire famille très différentes, mais que finalement, le faire famille est un phénomène universel et qu'il n'y a pas de société dans laquelle il n'y ait pas quelque chose qu'on appelle la famille. Alors, je prends cet exemple qui a donné l'anthropologie, notamment de la parenté et de la filiation. Mais on peut prendre d'autres exemples sur le politique, sur l'économique. Voilà, on peut prendre comme ça ces grands domaines sur de l'anthropologie qui montrent qu'on est à la fois dans l'appréhension de la diversité culturelle, de la diversité sociale et culturelle à travers le monde, mais aussi dans une idée de faire fonctionner cette idée d'universalité du genre humain.
Et alors, comment on devient anthropologue ?
Alors, on devient anthropologue en faisant des études d'anthropologie sociale et ethnologie, donc à l'université. Moi, j'ai commencé effectivement par un cursus en philosophie au départ, et puis très vite, j'ai voulu justement avoir cette appréhension qui est propre, qui est vraiment le paradigme de la discipline anthropologique, qui était de faire du terrain. C'est-à-dire d'avoir vraiment dans ma manière de faire des recherches, d'observer le monde, de le faire non pas seulement de manière théorique, mais d'avoir une approche très empirique aussi. Et donc, très vite, au niveau du, à l'époque on disait la maîtrise, c'est-à-dire le master 1 maintenant, j'ai voulu faire de l'ethnologie et j'ai été formée en ethnologie à l'université à Bordeaux. Et très vite, je suis partie sur le terrain, je suis partie faire du terrain notamment dans la ville de Mexico, où je me suis très vite intéressée au phénomène urbain mexicain. Et notamment dans ce phénomène urbain à Mexico, j'ai travaillé déjà sur des espaces marchands, des situations marchandes, et j'ai fait mon premier terrain d'enquête donc dans un des quartiers de la ville de Mexico, où des jeunes se regroupaient et formaient une sorte de marché urbain chaque samedi matin. C'était pour eux une des seules manières de se retrouver entre eux, d'échanger des produits, mais aussi d'échanger évidemment des interactions, de produire une sociabilité, d'échanger un imaginaire, d'échanger effectivement un certain nombre de productions culturelles aussi, à l'époque beaucoup de musique, de films. Et donc j'ai travaillé comme ça, j'ai commencé à travailler sur la manière dont dans la ville on pouvait produire des situations sociales particulières pour essayer d'avoir une place dans la ville, quelle que soit la place qu'on ait, mais d'avoir une place, d'essayer de faire place dans la ville.
Alors Emmanuel Lallemand, quand vous dites faire du terrain, est-ce que vous voulez préciser quels outils utilise un anthropologue ? Comment vous mesurez, quantifiez, observez les choses ?
Alors oui, donc le paradigme en fait de la méthode ethnologique, c'est la question de l'enquête de terrain. Alors souvent, c'est un terme assez galvaudé, le fait de faire du terrain, parce qu'on pourrait dire si finalement c'est facile, tout le monde peut faire du terrain, il faut toujours être un homme ou une femme de terrain quand on est un homme ou une femme politique ou un entrepreneur ou une entrepreneuse, il y a toujours ce mot être, faire du terrain et être un homme ou une femme de terrain. Alors, en anthropologie, on l'a quand même beaucoup, on va dire, objectivé, cette question du terrain. On a d'ailleurs toute une réflexion critique sur cette notion de terrain. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par là ? On veut dire que le terrain, c'est l'inverse d'une visite. C'est-à-dire que le terrain, ça produit une posture particulière qui est celle de l'immersion. Donc, c'est vraiment l'inverse de la visite. Quand on fait de l'immersion, ça veut dire que l'on va être sur le terrain pendant longtemps, très longtemps. Les ethnologues, on passe quelquefois des mois, des années sur le terrain. Être dans cette posture de l'immersion va permettre donc de ne pas produire une distance avec son terrain, mais au contraire une proximité. Et l'idée, c'est donc d'essayer d'atteindre, je dirais, de saisir ce point de vue de l'intérieur. Alors effectivement, c'est le temps qui permet ça. C'est aussi le fait de pouvoir partager un certain nombre d'activités avec les sociétés ou les groupes humains qu'on étudie. C'est le fait de pouvoir maîtriser la langue, quelquefois, quand on est dans une situation où on n'est pas dans sa langue maternelle. Les ethnologues ont ainsi été amenés à maîtriser des langues très rares et des langues d'ailleurs qu'ils ont eux-mêmes permis de faire perdurer, de sauvegarder à travers un certain nombre d'études et de dictionnaires de langues rares qu'ils ont pu mettre au jour et produire. Et donc, cette idée est de produire de la connaissance dans la relation qu'on a avec les gens qu'on étudie. Donc, c'est de l'observation directe. Donc, c'est du matériel, ce qu'on appelle du matériel de première main et non pas de seconde main. C'est de l'observation de récurrence. C'est-à-dire que quand on fait travail d'ethnologue, on n'est pas là pour observer ce qui nous paraît toujours extraordinaire, bizarre, incongru, événementiel, mais au contraire pour montrer que ça se passe dans la régularité, dans la récurrence, et qu'on observe de la récurrence, ça veut dire qu'on observe quelque chose qui vient nous dire l'ordre social à l'œuvre dans cette société. Donc ces observations sont directes, elles sont in situ. Et puis évidemment, l'échange de paroles, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup d'entretiens avec les gens qu'on étudie, qu'on observe, des entretiens souvent de longue durée. On n'est pas là pour vérifier des faits, on ne fait pas véritablement de questionnaire pour vérifier des informations, mais on est là pour essayer de saisir comment finalement cette situation qu'on est en train d'observer et qu'on étudie, eh bien elle est faite par les gens qu'on observe, elle est le fruit de leurs interactions et sur lesquelles ils peuvent même aussi produire un savoir. C'est-à-dire qu'on est aussi dans l'idée qu'on va faire émerger quelque chose qui est l'interprétation que les gens peuvent aussi avoir sur les situations qu'ils étudient. Et la plupart du temps, on voit très bien à quel point les personnes peuvent avoir une forme de réflexivité ordinaire, mais aussi une réflexivité tout à fait construite sur ce qu'ils vivent, la manière dont ils le vivent, la manière dont ils produisent un discours sur ce qu'ils vivent. Et c'est ça qu'on est en train de saisir, c'est ce sens commun partagé sur lequel, effectivement, on peut essayer de saisir cette parole, de la faire émerger et d'en rendre compte. Et on produit à la fois des choses qui peuvent être considérées comme très descriptives, parce qu'on prend très au sérieux la question de la description quand on fait de l'ethnologie. une très bonne description peut donner le sens des choses, peut donner une intelligibilité aux choses. Et puis évidemment, on produit des descriptions, mais on produit aussi des analyses ethnologiques. C'est-à-dire, on essaye de comprendre en quoi ce que font les gens a un sens pour eux, quel sens ils donnent et quel sens ça a du point de vue de leur société. Et puis aussi un sens anthropologique, c'est-à-dire quel sens ça a du point de vue effectivement de l'organisation plus générale des sociétés humaines.
Alors, vous avez employé le mot anthropologue et ethnologue. Alors, peut-être voulez-vous préciser quelle est la différence entre les deux termes ?
Alors, c'est une différence qui n'en est pas vraiment une. En fait, un anthropologue fait souvent beaucoup d'ethnologie. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Alors, c'est une histoire d'étymologie. L'anthropologie, comme je le disais au début de notre entretien, c'est la science de l'humain, la science de l'homme, anthropologie. L'ethnologie, on se situe à un niveau, on va dire, moins universel, moins méta. Ethnologie, ethné, c'est le peuple, hein, la racine, c'est ethné, le peuple en grec. Donc, on fait l'étude d'un peuple. Donc, quand on fait de l'ethnologie, on se situe plutôt au niveau, on va dire, de l'étude d'une société, d'un groupe humain, d'une situation. On fait de l'ethnologie de terrain. Et quand on passe à une analyse plus anthropologique, ben vous le voyez, là on passe à une analyse, on va dire, plus qui est liée à l'universel. On va essayer de dégager, on va dire, des analyses qui montrent que ben, ce que font telle ou telle société, ça peut aussi se référer à des choses plus générales, plus vastes d'organisation des sociétés humaines. C'est Lévi-Strauss, en fait, qui avait fait cette distinction, en tout cas, qu'il l'avait établie de manière, on va dire, assez didactique, en disant qu'il faut s'imaginer que l'anthropologie, c'est une sorte de discipline qu'on pourrait comparer à une bâtisse, à une maison à trois étages, où il y aurait un rez-de-chaussée, un premier étage, et un dernier étage qui serait presque le grenier, les combles. Le rez-de-chaussée, ce serait l'ethnographie, c'est-à-dire la pratique de l'enquête de terrain, la description d'une société, ethnographie, l'écriture d'un peuple. Donc, on fait, en fait, toujours de l'ethnographie, au sens où on fait toujours une première étape qui serait l'enquête de terrain en tant que telle. Après, on passerait à une dimension, on va dire, plus interprétative, moins descriptive, qui serait l'ethnologie, c'est-à-dire l'analyse de ce peuple que l'on étudie. Et puis ensuite, par un travail plus de comparaison, on serait dans l'anthropologie, et là, on mettrait au jour, on pourrait dire, des structures un peu plus universelles, des interprétations qui montreraient que, finalement, ce que l'on a décrit dans telle ou telle société, ça se réfère à quelque chose de plus universel, de plus général, qui nous dit quelque chose sur l'humain en général. Donc, cette discipline qui serait une sorte de discipline en trois étapes, même si ces étapes se font toujours dans des allers-retours. On ne fait pas d'abord du terrain, puis ensuite de l'analyse, puis ensuite effectivement de la comparaison. Souvent on fait les choses, on va dire, de manière plus poreuse. On fait de l'enquête de terrain, on analyse en même temps, et puis on lit beaucoup de théories. On fait toujours des allers-retours entre la théorie évidemment et l'empirie.
Thank you.
Alors justement, dans ce travail en immersion de terrain où il y a une place pour l'empirique, quelle place on donne aux émotions ?
Les émotions, on leur donne évidemment une place. Hein. On peut dire qu'il y a une anthropologie des affects. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé. Il y a des numéros de revues, notamment sur la peur, sur la colère. Donc, il y a des choses sur les affects, hein. C'est-à-dire une anthropologie qui prendrait les émotions comme thématique. Sinon, d'un point de vue plus transversal, oui, bien sûr, on prend en compte les affects, on prend en compte les émotions parce qu'elles nous sont transmises par les individus sur lesquels et avec lesquels on travaille. Les groupes humains font preuve effectivement beaucoup dans les imaginaires, dans les discours qu'ils développent, de leurs peurs, de leurs affects. La mythologie est faite effectivement de toutes ces émotions, de tous ces affects. Moi, d'un point de vue, on va dire plus, parce que moi, je me situe plutôt dans une anthropologie qu'on appelle l'anthropologie du contemporain, des sociétés contemporaines. Quand on fait de l'anthropologie plutôt urbaine, comme je le fais, on le voit à quel point la question des émotions peut être présente quand on est dans des formes de rassemblement. Moi, j'ai travaillé, par exemple, ces dernières années sur des formes de rassemblement festifs dans la ville, notamment. On le voit, la question des émotions collectives notamment, elle peut être tout à fait présente. Et je vais la prendre du coup comme matériau d'enquête parce que c'est ce que veulent peut-être me dire aussi les individus avec lesquels je travaille, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on ressent quand on est dans un rassemblement festif, qu'est-ce qu'on ressent comme émotion collective, à quoi participe-t-on finalement comme type d'émotion collective. Et souvent, les rassemblements festifs peuvent être aussi des rassemblements aussi de mobilisation, de revendication. Qu'est-ce qui se joue aussi comme émotion collective quand on est rassemblé pour dire quelque chose d'un point de vue politique ? C'est quelque chose sur lequel effectivement on peut effectivement travailler en tant qu'ethnologue.
Et justement, en tant qu'ethnologue, quelle place on laisse à ses propres émotions ?
Ah, quelle place on laisse à ses émotions ? Je crois que justement, ça me permet de dire que tout ce qui peut être considéré comme un biais dans d'autres disciplines, c'est-à-dire le fait que, ben oui, je suis un humain en train d'observer, en train d'interagir avec d'autres humains et en train d'essayer de produire de la connaissance dans cette interaction, peut être considéré comme un biais et pour parvenir à une forme d'objectivité, il faudrait que je me défasse de ces émotions, que je me défasse de ces affects parce qu'ils sont considérés comme des biais. En fait, je dirais qu'en anthropologie, en ethnologie, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'au lieu de les escamoter, au lieu de dire que ce sont des biais, on va essayer d'en faire des leviers heuristiques. C'est-à-dire, on va essayer de les prendre au sérieux et de voir comment, effectivement, ils jouent dans l'analyse, comment ils jouent d'abord dans la relation qu'on peut avoir avec les enquêtés, comme on dit, comment ils peuvent être justement quelque chose que l'on partage. Donc, on en fait des sortes de leviers heuristiques, on va les prendre au sérieux, on va essayer de leur donner le statut de matériaux d'enquête, pratiquement comme d'autres matériaux d'enquête, comme peuvent l'être une autre observation. Les émotions, elles ne sont pas escamotées, elles sont effectivement mises au cœur de notre analyse. Je pense aux analyses de Jeanne Fabre-Sada, hein, qui en a fait tout un pan de son analyse, la manière dont un ethnologue est affecté lui-même sur le terrain et comment justement il va faire de cette affectation qu'il a sur le terrain, eh ben, il va en faire un matériau d'enquête, il va travailler aussi là-dessus.
Est-ce que c'est plutôt rassurant alors d'avoir des émotions quand on est ethnologue ?
Oh, rien n'est vraiment rassurant quand on fait du terrain. On est affecté, on est toujours un peu ébranlé. On ne va pas faire du terrain pour être conforté dans quelque chose que l'on pense déjà connaître a priori. Souvent, on va sur le terrain pour justement être particulièrement étonné, d'être un peu ébranlé dans nos convictions, de pouvoir justement invalider un certain nombre d'hypothèses qu'on avait pu se faire sans être sur le terrain. Donc, je pense que oui, le terrain est souvent considéré comme ça. Quand j'enseigne le terrain en cours, les étudiants ont souvent l'impression que ça va être quelque chose finalement d'assez facile. Et une fois que l'on est sur le terrain ensemble, ben, on se rend compte que c'est souvent finalement une posture pas si évidente, quelquefois qui peut provoquer une forme de gêne sociale. C'est pas évident d'être sur le terrain. Tout le monde n'aime pas faire du terrain d'ailleurs, hein, et on peut le comprendre. Et du coup, je dirais que oui, le terrain, c'est une sorte d'épreuve aussi sur soi, savoir se comporter sur le terrain, savoir faire preuve d'une forme d'intelligence sociale pour dire voilà, je suis sur le terrain, je suis avec des gens, je vais avoir un impact, je dois être très délicate avec ce qui se fait, je dois faire attention justement à adopter les codes, mais aussi qu'est-ce que je vais en dire, la manière dont je vais pouvoir le restituer. Et je pense que toute cette génération d'ethnologues qui arrive maintenant sur le terrain, qui produit des recherches de manière de plus en plus participative, qui fait très attention à la question de la restitution, fait qu'on a une génération de chercheurs et de jeunes chercheurs qui sont particulièrement attentifs justement à ces questions d'émotions partagées, à ces questions de responsabilité partagée quand on est sur le terrain.
Et alors justement, Emmanuel Lallemand, qu'est-ce que ça vous évoque, la recherche culturelle et les sciences participatives ?
C'est vrai que c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler, cette question de recherche culturelle et participative. Bon, il y a tout un pan de la recherche, notamment sur un certain nombre de domaines culturels. Moi, j'ai travaillé au ministère de la Culture et j'ai vu à quel point, notamment dans le domaine patrimonial, je m'occupais d'un département qui produisait des études sur les publics des patrimoines, combien les publics des patrimoines peuvent être participatifs à la recherche. En archives, dans le domaine des archives, beaucoup de gens amateurs aident notamment à décrypter un certain nombre de textes anciens. Et s'il n'y avait pas ces publics-là, ces amateurs-là, on ne pourrait pas participer à ça. On le voit notamment dans le patrimoine immatériel. Bon, c'est beaucoup, effectivement, des gens qui étaient eux-mêmes porteurs de telle ou telle tradition, qui vivaient dans tel ou tel village, qui ont participé à documenter ces questions de patrimoine immatériel. Donc, qui faisaient déjà de la recherche participative avant même, je dirais, qu'on en parle d'un point de vue plus thématique et avant même qu'il y ait ce tournant numérique qui permet à plein de gens de participer à la recherche en contribuant par leurs observations, en contribuant, en mettant sur des sites ce qu'ils ont pu observer, ce qu'ils ont pu même, on va dire, contribuer à documenter. Donc, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Mais c'est vrai que là, on le voit de manière, on va dire, de plus en plus prégnante, la manière dont un certain nombre de chercheurs veulent justement à la fois, je dirais, définir leurs objets de recherche avec les individus qui font les objets de recherche, qui font les situations sociales, donc la définition de l'objet lui-même. Je dirais aussi la contribution à la méthode, c'est-à-dire comment maintenant, effectivement, du point de vue des méthodes d'enquête, on essaye de les faire avec les gens sur lesquels on va travailler, avec lesquels on va travailler. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, jusqu'à la restitution, c'est-à-dire de réfléchir en amont sur la manière dont on va restituer cette recherche qu'on est en train de mener, comment la restituer, comment faire participer effectivement les individus avec lesquels on travaille à cette restitution. Donc c'est à la fois du point de vue de la définition de l'objet, de la manière dont on appréhende l'objet, la manière dont justement on va aussi le restituer.
Ça voudrait dire que l'on passe d'un regard sur à un regard avec ?
Oui, je pense que c'est comme ça qu'on peut le formuler. Je pense que c'est comme ça aussi finalement que cette discipline ethnologique qui s'est forgée plutôt dans des sociétés de l'ailleurs peut aussi se renouveler pour devenir une anthropologie du contemporain et travailler avec les gens qui sont, quelle que soit leur situation, qu'est-ce que soit l'endroit où ils se trouvent dans le monde, ils sont nos contemporains. Nous avons quelque chose en commun qui est le fait que nous partageons une contemporanéité. Et je pense que quand on est très conscient de ce partage de contemporanéité, c'est-à-dire que nous sommes les contemporains de ces situations, les individus sont contemporains, bien justement, on est déjà dans ce « avec ». On n'est déjà plus dans le « sur les gens », on est déjà avec les gens et avec ce partage d'un certain nombre de choses, dont le sens commun et dont beaucoup d'expériences que nous vivons en commun, même si nous ne les vivons pas forcément de la même manière.
Va la vie d'ici, la vie est là d'ici bas. Elle débat et batterie les premiers pas danser à devant des écoliers. Balancer dans l'air sans avoir d'air, saouler dans le temps. Au fin de nuit d'abus du soufflet qui s'est tiré, rissé mon seul ton du blues. Et si c'était ça la vie, et si on nous l'avait pas dit, les piques et pocs aussi va de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le doux donc, dis, dans des mots doux, on dit désir ici, efficace est à pas passer. Sur ton accordéon, tu touches à toucher. Pour les faciles, j'ai là du bout des doigts. D'aussi nous songe à si tu médites des fois, tu fasses suffire maman une note cassée. Cassée, on n'en est plus jamais dans la scène. La musique a fini, mélodie qui vit, qui file là-bas, sans balader, casser la balade dans l'horizon. Sur ton accordéon, tu touches à toucher. Pour les faciles, j'ai là du bout des doigts. D'aussi nous songe à si tu médites des fois, tu fasses suffire maman une note cassée. Cassée, on n'en est plus jamais dans la scène. La musique a fini, mélodie qui vit, qui file là-bas, sans balader, casser la balade dans l'horizon. S'il va lui battre la vie ça va, tu l'as dit. Au bal aussi, c'est là que t'as tout vu passer, le passé dépaysé. Vas-y, l'évasif, vas-y, l'enfant, tout petit déjà. Jadis, on l'a dit, mais il a la question, comme t'es soufflé, la passe, Koumako. Et si c'était dommage, pas si c'est un hommage aux hommes assis devant, vu de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le, nous donc, dis, dans des mots doux, on dit désir ici, si l'efficace est à pas passer. Et si l'on leaders disparaît tout. Assurément libère, tout est l'animal sauvage, la cause, comme t'es la hate. T'as beau voir, tu que truc, tu que traque, tu que toque, tu que riga, tu que raca, tu que rigue, ragunana, bebe mille ou cop, petite cobourut. En quoi de copa, tu que truc, tu que taca, tu que toque, tu que riga, tu que raca, tu que rigue, ragunana, bebe mille ou cop, ça se vit, vite à l'hésitation qui va faire éclater le banc des ateliers. Balancé dans l'air, sans avoir d'air, saoulé dans le temps. Au fond de nuit d'abus du soufflé, il s'est tiré, il s'est bon, c'est le temps du blues. Et si c'était ça la vie, et si on nous l'avait pas dit, les piques et pocs aussi va de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le nous dans des mots doux, du désir ici, efficace est à pas, si tu vois, tu vois, tu vois droit.
Et alors, Emmanuel Lallemand, vous avez diriger le numéro 38 de la revue Socio-Anthropologie Éclat de Fête. Donc justement, cette idée de fête, c'est, il me semble, tout à fait en lien avec la thématique de cette nuit européenne des chercheurs, qui est Petit secret nocturne. Alors peut-être que vous voudriez nous en dire quelque chose.
Oui, alors j'ai coordonné ce numéro de la revue Socio-Anthropologie aux éditions de la Sorbonne, donc avec ce terme « éclat de fête ». Ce qui nous a intéressé, avec tous les contributeurs à ce numéro de la revue Socio-Anthropologie, c'était de partir du constat que voilà, le phénomène festif, c'est un phénomène universel que les anthropologues ont d'ailleurs beaucoup documenté depuis fort longtemps. C'est ce que certains d'ailleurs appelaient un phénomène social total, c'est-à-dire de prendre au sérieux ces regroupements festifs, ces moments de fête que toutes les sociétés humaines ont et de considérer qu'elles sont universelles. C'est vrai qu'il n'y a pas de société humaine qui ne fasse pas la fête. Il y a des formes très différentes de fêtes. On ne fait pas la fête de la même manière quand on est de telle ou telle société, mais le phénomène festif, lui, il est universel, il traverse toutes les sociétés humaines. Et c'est un phénomène social total, parce que si on le prend au sérieux, on va voir que dans la fête ne se joue pas que de la fête au sens, ne se joue pas que de la convivialité, ne se joue pas que de l'effervescence, ne se joue pas que du chaos, mais peuvent se jouer des dimensions comme des dimensions religieuses, des dimensions politiques, des dimensions économiques. Et donc ça, c'est quelque chose, effectivement, sur lequel travaillent nombre d'anthropologues depuis fort longtemps. Je pense aux gens qui ont travaillé notamment sur cette forme qui est le carnaval, qui a été extrêmement bien étudié à la fois par des folkloristes, mais aussi des anthropologues tout à fait contemporains qui ont pu travailler sur les carnavals au Brésil ou même en Europe. Mais c'est vrai aussi qu'on pourrait dire que le phénomène festif, il est devenu aussi, on va dire, très institutionnalisé, voire commercialisé, voire un peu réinventé. C'est-à-dire que on est à une époque où on a beaucoup critiqué la fête en disant ben, les fêtes, maintenant, c'est de l'événementiel, c'est de l'institution, c'est du commercial ou même c'est de la réinvention de tradition. On a vu, on va dire, ce renouveau des fêtes dites traditionnelles, notamment en France, qui ont été reprises à des fins, on va dire, d'attractivité touristique, notamment, ou bien toutes ces fêtes institutionnelles, enfin, qu'on considère comme institutionnelles, sur lesquelles moi j'ai un peu travailler, notamment je pense à ces phénomènes type fête de la musique ou nuit blanche, dont on voit bien qu'elles sont prises en charge par les municipalités, par les institutions, et qu'elles sont un petit peu, on va dire, décrétées. On va décréter que c'est tel jour, à tel moment, dans tel espace, et avec force communication ou avec des professionnels de ces phénomènes festifs, on va les organiser. Et du coup, on pourrait dire que ben, elles perdent de leur caractère spontané pour devenir de plus en plus policées. Puis c'est vrai qu'on va parler beaucoup de la commercialisation de la fête en disant, mais y a-t-il encore du phénomène festif si finalement toutes les fêtes sont commerciales ? On pense à Noël comme étant effectivement l'exemple type de la fête commerciale s'il en est. Et c'est vrai, c'est un grand moment économique de notre société. On le voit là, tout le monde se pose la question, va-t-on sauver Noël ? Et quand on pose cette question, va-t-on sauver Noël ? C'est-à-dire, va-t-on sauver l'économie de Noël qui est très importante pour tout un secteur, tout un pan de notre économie. Donc, vous voyez, quand on se pose cette question, finalement, est-ce qu'on n'est pas dans une fragmentation de la fête ? Est-ce qu'on n'est pas dans un éclatement de la fête ? D'où l'idée de éclat de fête. Alors, on se pose cette question et on se dit, mais oui, tout le temps, la fête a été finalement organisée. La fête, c'est toujours quelque chose d'extrêmement codifié. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on a parlé de rituel quand on parle de fête. C'est tout le temps, effectivement, assez ritualisé, c'est-à-dire que c'est dans un lieu précis, avec des objets précis, avec des individus précis. C'est vrai que, bah, oui, ça donne un sens au réel, ça ordonne le réel, la fête. Donc, ce n'est pas forcément du chaos. En tout cas, si c'est du chaos, c'est très organisé, c'est un chaos la plupart du temps contenu. Et finalement, la fête n'est pas en rupture avec le quotidien. Elle est une modalité de notre vie sociale. Elle est je dirais qu'elle est, oui, il n'y a pas d'un côté la morosité du quotidien et du routinier, et de l'autre, l'éclat, l'effervescence du festif. Non, tout cela est en interaction. Et du coup, quand on s'intéresse au phénomène festif, on s'intéresse aussi à l'organisation de nos sociétés, on s'intéresse à l'ordre social. On ne s'intéresse pas à la part, on va dire, dionysiaque de nos sociétés. Ce n'est pas forcément quelque chose de totalement effervescent, chaotique, dionysiaque, la fête. Non, c'est quelque chose en continuité avec l'ordre social. Et d'ailleurs, on le voit parce que justement, moi, c'est ça qui m'a intéressé ces derniers mois, c'est d'observer le phénomène festif au moment où justement il est à l'arrêt, où justement, où il est interdit, où il est dangereux. Oui, effectivement, il est actuellement dangereux d'un point de vue sanitaire de se rassembler sur un mode festif. Et justement, du coup, eh bien, il est d'autant plus considéré comme nécessaire parce qu'on le voit, eh bien, il est emblématique du fait que nous sommes des êtres sociaux et que quand on nous demande d'être dans une distanciation sociale, eh bien, on se rend compte à quel point il est nécessaire de se retrouver sur un mode, quelque part, oui, festif, qui ne veut pas dire forcément transgressif, mais qui renvoie à toute cette part de nos vies d'êtres sociaux où on a besoin de se retrouver sur un mode convivial. Je pense que ce qui se joue actuellement, en tout cas c'est quelque chose qu'on peut observer, c'est que cet interdit de la fête, non seulement nous montre à quel point il y a une valeur culturelle à la fête, à quel point c'est une nécessité, et aussi peut-être à quel point cette chape de l'interdit qui se pose actuellement sur nos fêtes l'a fait basculer dans quelque chose de transgressif qu'elle n'a finalement pas d'ordinaire. Les fêtes ne sont pas si transgressives que ça d'ordinaire. Les fêtes transgressives sont assez périphériques finalement. mais elle se recompose actuellement dans le transgressif, et c'est là peut-être qu'il faut s'interroger, oui.
On peut envisager un coût moral à cette privation de fête post-Covid ?
Oui, un coût moral et un coût social, c'est-à-dire que je pense que cette volonté de pouvoir maintenir quand même quelque chose sur un mode festif montre à quel point nous sommes, alors je n'aime pas ce terme, mais finalement on pourrait quand même l'employer ici, quelque part résilient, c'est-à-dire en tout cas résistant à cette manière de, cette époque nous enjoint à être dans l'entre-soi, et dans un entre-soi très restrictif, nécessaire sans doute actuellement, mais très restrictif, c'est-à-dire que l'on maintient quand même du lien social, et on le fait sur un mode festif avec tous ces reconfigurations. Certains diraient ces ersatz de fait, c'est-à-dire le fait de maintenir via ces technologies de la proximité dans la distance que sont ces plateformes Zoom, WhatsApp, Skype, dans lesquelles, en tout cas au premier confinement, on l'a vu, les gens ont essayé de se rassembler. On a essayé de se rassembler de cette manière-là pour maintenir le lien, pour essayer de maintenir sur un mode festif ce lien. Je ne sais pas si ça va perdurer sur ce deuxième confinement, mais en tout cas l'idée est de ne pas perdre le sens de la fête, de la considérer toujours comme une valeur qu'on va essayer de faire perdurer. Je dirais aussi que d'un point de vue des professionnels de la fête, il y a aussi plein d'inventivité qu'on a vu naître, une sorte de créativité où des DJ essayent de maintenir leur métier de fête en faisant ça évidemment d'une manière virtuelle, via des plateformes, via des technologies. Des concerts se sont maintenus, des festivals se sont maintenus ou essayent de se maintenir. C'est-à-dire, on voit à quel point toute cette chaîne de professionnels finalement essayent de se réinventer, essayent de réinventer des manières de continuer à faire la fête et à continuer à rassembler leur communauté, comme ils le disent, d'une manière dont ils pensent, ou en tout cas espèrent qu'elle sera éphémère. Et on est vraiment dans un moment de suspension qui est à la fois dramatique mais intéressant à observer. Et la question qu'on se pose, c'est finalement, oui, dans ce moment de suspension, est-ce que c'est pour justement maintenir quelque chose d'un point de vue éphémère, en espérant tous que ça va pouvoir revenir à la normale, comme on dit, ou est-ce que dans ce moment de suspension sont en train de se jouer des modalités qui, ben, finalement, vont perdurer et vont impacter les choses de manière plus pérenne. C'est-à-dire, la question qu'on se pose actuellement, c'est une question plus générale, c'est que, est-ce que là comme ailleurs, l'éphémère n'est-il pas en train de produire quelque chose de pérenne ? Est-ce que ce n'est pas un éphémère un peu sur le mode du subjonctif, c'est-à-dire qui va impacter de manière plus durable les choses ? Est-ce que finalement, ce qui se joue actuellement ne va pas devenir plus structurant ? Va-t-on pouvoir retrouver ce qu'on faisait avant ? Ou est-ce qu'on va continuer finalement sur ce mode-là, un peu mis entre parenthèses ? Est-ce qu'on ne va pas vouloir finalement ou devoir le maintenir encore longtemps ? Et du coup, quel va être l'impact à long terme sur nos vies sociales ?
Quel genre de fête a besoin de la nuit ?
Alors, toutes les fêtes ne sont pas des fêtes nocturnes, mais c'est vrai que la dimension nocturne et la dimension festive sont étroitement liées. Actuellement même, autour d'un certain nombre de chercheurs, il y a cette idée de produire, ça existe, des « night studies », pour montrer que la nuit, c'est un objet de recherche en tant que tel, et qu'autour de la nuit ne se jouent pas forcément d'ailleurs des études sur la fête, mais ça peut être des études sur le travail de nuit, sur l'économie de la nuit, sur la ville la nuit, sur les gens qui habitent la nuit, les gens qui effectivement n'ont pas de domicile fixe et donc habitent la ville aussi la nuit. Donc il y a quelque chose de très sérieux qui se joue autour de cette idée de nuit et aussi comme valeur, c'est-à-dire préserver la nuit comme étant ce moment particulier dans lequel se jouent des choses socialement particulières pendant la nuit. Si je reviens à mes objets autour de notamment autour de la fête. C'est vrai que la nuit, c'est le moment de la fête, c'est le moment où effectivement on va être dans une sorte de mise entre parenthèses quelquefois de nos statuts sociaux au profit d'un autre type de statut, quelquefois au profit d'un autre type d'identité, peut-être plus relâchée, peut-être plus infrapolitique la nuit pour faire la fête ensemble. Peut-être la nuit, c'est le moment où, justement, quand on fait la fête, on n'est pas seulement dans l'entre-soi, mais on est aussi dans la rencontre avec d'autres. On n'est pas seulement dans le petit cercle, mais on est au contraire dans cette idée d'aller à la rencontre d'autres. Donc oui, c'est vrai que la nuit permet cette mise entre parenthèses quelquefois. La nuit permet effectivement aussi d'aller dans d'autres lieux qui ne sont pas forcément les lieux du jour. Donc on est dans une reconfiguration, notamment des espaces urbains, dans des lieux qui sont plus peut-être des coulisses de la ville, dans des lieux qui sont, on pourrait dire, de nouvelles scènes, d'autres scènes de la ville. Voilà, mais je pense aussi que cette question de la nuit, c'est quelque chose qui a été beaucoup aussi, pas instrumentalisé, mais dont on a fait un usage pour produire des fêtes qui elles-mêmes sont très institutionnelles. Je parlais tout à l'heure de Nuit Blanche, je parlais de la fête de la musique. Il n'est pas anodin que ces fêtes ont pu se mettre en place en prenant la nuit comme scène, c'est-à-dire en se disant, voilà, si nous mettons des citadins dans la situation d'être la nuit, dans une autre forme de relation au lieu, dans une autre forme de relation à leurs voisins, dans une autre forme de relation à des espaces de la ville et dans une autre forme de relation avec eux-mêmes aussi, avec d'autres citadins, eh bien effectivement c'est la nuit que ça peut se faire. C'est-à-dire ça va permettre sans doute cette forme de relâchement et cette forme aussi de magie, hein, osons aussi ce mot. Moi, je pense à la fête des Lumières à Lyon, hein, qui est une sorte comme ça de modèle, hein, sur lequel peut-être les Nuits Blanches ont aussi pu se mettre en place. C'est-à-dire que la nuit, c'est effectivement un moment particulier, un moment qui va produire cette forme d'illumination, hein, ce nocturne qui produit une forme d'illumination. On va mettre en lumière des lieux, on va mettre en lumière des formes de rassemblement qui ne pourraient pas se faire dans le diurne, qui se font plus dans le nocturne.
Pour conclure, Emmanuel Lallemand, une question sur le rapport au temps des anthropologues. Est-ce qu'on peut dire qu'en prenant le temps d'être sur le terrain, c'est une façon aussi d'anticiper sur le monde qui pourrait arriver ensuite ?
Les anthropologues ne sont pas des prospectivistes, hein. On est vraiment dans l'analyse d'un présent avec toutes ses dimensions, hein, en fait, avec tout ce palimpseste, de manière dont il se construit, évidemment, avec toutes les strates du passé et des usages sociaux qu'on fait surtout du passé, de l'histoire, de la mémoire. Et c'est vrai qu'en prenant le temps avec les individus avec lesquels on travaille et d'essayer de voir quels usages ils font de ces différentes temporalités, du temps long, du temps présent, mais aussi des imaginaires, des représentations qu'on peut avoir sur le futur. Je pense qu'actuellement, ce qui se joue aussi beaucoup, et là vraiment je n'invente rien parce que je sais que c'est quelque chose sur lequel travaillent beaucoup d'anthropologues du contemporain, on travaille sur cette question plutôt, peut-être non pas du temps en tant que tel, mais peut-être de cette modalité du temps qui est celle de l'incertitude. C'est quelque chose qui est très caractéristique de notre monde contemporain, c'est travailler sur l'incertitude qui caractérise notre monde, c'est-à-dire d'être dans un monde où la permanence des choses n'est vraiment pas assurée, c'est le moins que l'on puisse dire, ni d'un point de vue, on va dire, écologique, ni d'un point de vue sanitaire, ni d'un point de vue social, et ni d'un point de vue politique. Donc d'être peut-être, non pas dans une appréhension du futur, mais d'être dans cette inquiétude partagée, d'essayer de saisir tous ces signaux, toutes ces formes de représentation, toutes ces pratiques que l'on a, que l'on met en commun ou qui font l'objet de débats entre nous, voire d'opposition, mais qui ont comme point commun de partager une forme d'incertitude sur le futur et même un futur très proche. Donc je pense que là les sciences sociales, notamment l'anthropologie et cette anthropologie qui essaye de mettre en œuvre des méthodologies assez on va dire innovantes et proches du terrain, proches des gens qu'on étudie, pour essayer de comprendre et de rendre intelligible ce qui finalement se présente sous forme de chaos et d'incertitude, qui est ce que nous vivons et ce qui fait notre présent et ce qui fait notre quotidien. Donc cette appréhension d'un quotidien pour lequel effectivement on peut avoir une inquiétude partagée, je pense que c'est une manière d'aborder ces questions de temporalité d'un point de vue anthropologique actuellement, oui.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps, justement, de répondre à ces questions.
Voilà, à bientôt.
À bientôt, merci madame.